France Culture.
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qui ne s'y est pas rendu? Qui n'y a pas séjourné? Ou qui ne rêve pas d'y séjourner? Venise. Venise est la destination des amoureux, comme chacun sait, et des amoureux des paysages, des canaux, des tableaux, tableaux représentant Venise, des pigeons, des écrivains et des lecteurs, des metteurs en scène et des spectateurs. Il n'y avait que l'embarras du choix pour trouver dans les archives de l'INA la parole de fan de la Sérénissime. Venise, ce qu'il y a peut-être de plus émouvant au monde, disait un chef d'État français qui la visita tardivement.
Rétro.
Rétro.
Bon baiser de Venise.
De Venise, ville exquise, j'ai gardé le doux souvenir d'une belle ribambelle d'Arlequin et de grand vizir, d'un baiser de tourterelle dans la folie du corso et aussi de la tarentelle que chantait le grand Caruso.
Bambino, Arlequin, un parfum italien dans Venise.
Il se retrouve. Des amoureux.
Adieu tous les pigeons qui nous ont fait d'escorte. Adieu pour les soupirs. Adieu rêves perdus.
Moi, nous marchons dans Venise. Sa vérité brise les cartes postales.
Parce que nous avons fait l'itinéraire de ce voyage.
Jean Giono.
Non, je ne veux pas voir Venise. Alors ma fille m'a dit, mais si, il faut que tu ailles voir Venise. Je lui ai dit, non, Venise, Wagner, D'Annunzio, voyage de noces, la gondole, non, je ne veux pas voir ça. Ça, c'est abominable, je ne veux pas voir ça. Elle m'a dit, tu as tort, papa, tu as tort, il faudrait que tu ailles voir ça quand même. Tu sais, c'est pas du tout ce que tu prétends, c'est pas du tout ce que tu crois.
C'est Aline qui
était
allée avant moi.
Elle a fait autre chose. Aline y était allée avant moi, quelques mois avant. Alors je dis, bon, ben allons voir cette chose qui n'est pas ce que je crois.
Gondola, 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 gondola.
Ce sera le premier chant des gondoliers que le touriste entend à son arrivée à Venise, cette ville unique, on l'a dit et redit, où la devise d'ailleurs respectée des cadrans est de ne compter que les heures sereines.
Gondole, pigeon, pont des soupirs, place Saint-Marc et en fond sonore une tarentelle. Voici Venise campée en son plus beau cliché. J'oubliais, pour parfaire ce tableau, les grands établissements qui font le prestige de la ville. Entre le Danieli et l'hôtel Gritti, choisissons ce dernier, le plus lettré des deux.
Nous avons eu ici, parmi les clients, Romain Gary, Georges Simenon, John Cabot-Lodge, Charlie Chaplin, André Malraux, qui vient d'ailleurs souvent, Bourguiba, Gilbert Bécaud, Maurice Chevalier, Richard Nixon, Kosygin et Fanfani.
Hemingway était lui aussi un habitué de l'hôtel Gritti. Et en 1967, il descendit à son tour le général de Gaulle. C'était son premier voyage à Venise. Après une visite en règle de la ville, il fit part de ses impressions.
Comment un Latin, comment un Européen ne peut-il pas être profondément impressionné par tout ce qu'il voit, tout ce qui s'y est rencontré, des civilisations diverses. Et la majesté de cette capitale, de cette république, et la splendeur de cette basilique, sont ce qu'il y a de plus émouvant, peut-être, au monde.
Un peu plus tard, place Saint-Marc. Imaginez le général de Gaulle au milieu des battements d'ailes des pigeons, laissant tomber ce commentaire.
Ce sont les pigeons officiels.
Oui, exactement.
Ils sont après les 26.
Ils vont bien par votre main, c'est
bon. Dans leur rôle.
Autre témoignage, nettement moins officiel.
Je suis camionneur de mon métier, et puis j'ai commencé avec rien dans les mains, rien dans les poches. J'ai été pas riche, il a fallu travailler très longtemps pour arriver à quelque chose. Puis au bout, avec la femme, on dit tout de même, on va prendre quelques jours de vacances en Italie. Ça fait qu'on a été à Venise. Parce que c'est une belle ville, d'après tout le monde, c'est une ville qui est calme, tout le monde en parle, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voulait voir ce que c'était. Il y a pas, c'est une ville autrement que les autres.
Venise est une ville très dangereuse pour le cinéma. On tombe dans les cartes postales avec une grande facilité.
1971, Luchino Visconti à propos de La mort à Venise.
L'atmosphère de Venise, pas tellement les monuments de Venise. C'est un peu ce que j'avais fait dans Senso aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans Senso, on voyait une Venise pauvre, une Venise secondaire, disons, une Venise non faite pour le tourisme. Ce n'est pas la Venise de Ruskin, c'est la Venise de Proust plutôt.
Au début du siècle, Venise n'était pas touristique, mais mondaine et cosmopolite. S'y retrouvaient aristocrates autrichiens et bonnes sociétés françaises, anglais originaux et artistes en tout genre. La France était représentée en force. Dès septembre, on y croisait Henri de Régnier, le poète, et son cénacle, et puis le tout jeune Paul Morand. Voici quelques souvenirs de ce temps passé, racontés par Paul Morand et Jean-Louis Vaudoyer, cet autre amoureux fou de Venise. Paul Morand.
Je suis né sous le signe des poissons, et alors je trouve que c'était mon élément naturel. Et puis, j'adorais l'art byzantin, ça a été le coup de foudre dès ma 15e ou 16e année. Et comme toutes mes grandes passions artistiques, ça ne m'a jamais quitté, et j'ai gardé toujours les mêmes goûts. Et bien alors, Venise, c'était ça pour moi, c'était l'appel de l'Orient.
Je crois que j'ai aimé Venise avant d'y être et que je n'ai même pas été surpris par Venise.
Jean-Louis Vaudoyer.
J'ai retrouvé une ville à laquelle j'avais rêvé depuis mon enfance par tout ce que j'avais lu sur Venise, parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père ont été en Italie, que le bureau d'architecte de mon père était rempli de vues de Venise et de vues de Rome, et que je suis arrivé à Venise comme si on m'y attendait. Et je m'attendais à tout ce que j'y ai trouvé, comme si je m'y étais déjà promené dans une vie antérieure. Et alors, j'ai été de plus accueilli par mon maître et ami, Henri de Régnier, avec qui j'ai passé, avant 14, au moins 7 ou 8 ans, toutes les automnes à Venise. Nous y vivions, nous revenions chez nous quand nous allions à Venise. Et c'était une ville où nous vivions en vénitien. Et d'ailleurs, nous nous étions arrangés pour élire une Venise qui n'avait rien à voir avec une Venise cosmopolite. Nous vivions dans ce que j'appelais, dans ce que nous appelions la rive gauche de Venise, c'est-à-dire la partie qui est à gauche du Grand Canal quand on vient de la place Saint-Marc, dans une ville où de temps en temps, quelques touristes se fourvoyaient, généralement déçus par ce qu'ils voyaient, et puis où nous nous retrouvions entre nous, nous louions des chambres meublées. Dans les chambres meublées sans aucun confort, même pas d'eau courante, mais où nous étions dans une Venise où les Vénitiens régnaient encore et où la Venise familière de tous les jours nous accueillait, nous perdions dans Venise. Nous n'avions pas l'idée d'y vivre en touriste.
Avant 1914, entre les cafés Quadri et Florian, entre le palais Dario et celui où recevait Madame de Polignac, on avait encore toutes les chances de rencontrer des personnages extraordinaires.
On prenait Fortuny, qui était un homme étonnant. Fortuny était un homme qui s'était mis à tisser des étoffes, qui était le fils du peintre espagnol, et il s'était mis à tisser des étoffes, à refaire des étoffes des velours et des étoffes du 15e vénitien ou génois, et alors est arrivé arrivé, c'était vers les époques du 1910, d'ailleurs Proust en parle, il habille la prisonnière très souvent avec ses étoffes magnifiques, et bien c'est l'époque des grands de fêtes costumées, l'opéra russe, l'influence de l'opéra russe sur Poiret, sur les bals persans, tout ça, et bien il est certain que Venise était là avec son décor et sa magie orientale, tout comme le décor nécessaire pour cette époque-là. Mais dans ma jeunesse, c'était surtout un milieu de... Évidemment, il y avait beaucoup d'aristocrates autrichiens, mais c'était un milieu, en ce qui concerne les Français, de quelques gens du monde, mais surtout d'universitaires, de professeurs et d'artistes.
Cette époque de Venise d'avant 14, où les Vénitiens étrangers étaient aussi des Vénitiens d'adoption, qui avaient là leur palais, leur vie tous les jours, le palais d'Ario où étaient Madame de la Baume et Madame Bulto, le palais de Madame de Polignac, tous ces gens-là vivaient à Venise sans du tout penser qu'il pouvait y avoir des touristes autour d'eux. Sauf, évidemment, lorsque nous nous rendions place Saint-Marc, qui, à mon avis, doit être une place couverte de foule. C'est une place, c'est un promenoir, ce n'est pas un endroit où il faut chercher la solitude.
J'ai toujours eu la hantise de l'indépendance. Et c'est pour ça que j'ai aimé Venise, qui est une ville libre, qui est une ville ouverte sur le grand, sur le monde, sur l'extérieur.
C'est une ville dont il est extrêmement difficile de sortir.
André-Pierre de Mondiargue.
Encore plus peut-être que de sortir de Paris. Vous n'avez pas idée des efforts qu'il faut faire pour arriver au garage, pour prendre sa voiture. Et quand on a vécu longtemps à Venise, je dirais qu'on est en péril de mort quand on revient sur la terre ferme, car on a totalement oublié que les rues ne sont pas pavées d'eau et qu'il y passe autre chose que des bateaux gentils et inoffensifs.
Après la Venise mondaine et littéraire, voici l'impression d'un peintre, Jules Chaplin-Midi.
C'est une ville qui vous plonge dans une espèce de féerie, et de féerie naturelle, puisqu'on circule entre des maisons qui sont comme des portants de théâtre, et que les gens qui se promènent dans la rue ont une proportion qui est presque celle du théâtre, c'est-à-dire une proportion qui ne soit pas trop, ni trop petite ni trop grande par rapport aux édifices. En plus de ça, je crois qu'on peut dire aussi que ce qu'il y a d'extraordinaire à Venise, c'est que c'est l'Italie, bien sûr, mais que qu'elle a un ciel qui est encore plus qu'italien. C'est-à-dire que le ciel de Venise, avec l'humidité des lagunes, prend des tons vraiment extraordinaires, des tons d'opale qu'on ne rencontre, je crois, que là.
Une vision très classique qui fait irrémédiablement penser à ces vues de Venise peintes par Canaletto. Opposons-lui l'angle de vue sélectif et précis de Salvador Dali.
Je suis voyeur, mais pas voyageur. Alors je préfère regarder les choses que j'ai toujours déjà vues dans des petits appartements le plus cloques possible. Et les voyages, je tâche de les éviter le plus que je peux. Parce que si par exemple... il se pourrait que j'ouvre une fenêtre dans un appartement que j'ai jamais vu et je vois un arbre que j'ai jamais vu. Cet arbre m'embêterait le tout pour au moins 2 semaines. J'aime voir toujours les mêmes choses aux mêmes heures, dans les mêmes endroits, dans les mêmes pays. Et c'est pour ça que la vie de Dali est d'une chronologie rigoureuse dans ses déplacements, uniquement Port-Rigate, New York, Hôtel Meurice, ici où nous nous trouvons, et un tout petit peu de Venise comme maximum de débauche visuelle, mais toujours inéluctablement dans le même appartement donnant sur l'église de la Salute, pour que je puisse savoir qu'à 6h30, le soleil va toucher tel angle du campanile.
Jean Giono se fit prier pour connaître Venise, il ne le regretta pas. Son préjugé se brisa net, laissant place à l'émotion.
Je me suis trouvé devant un spectacle qui était tout à fait différent de celui que je croyais. Car, à côté de ces décors de ces décors faciles que tout le monde connaît, à côté de ces petites plaisanteries qui consistent à se promener en gondole ou à imaginer qu'on est en voyage de noces ou y aller véritablement faire son voyage de noces, il y a la vie d'une ville très spéciale qui n'est pas construite sur le modèle des autres villes. Il y a d'abord ce silence qui actuellement est un peu troublé par le bruit des moteurs des vaporetti, mais le silence reste quand même. Il y a cette foule silencieuse qui se déplace le long des canaux sur de petites rues très étroites qui sont en encorbellement au-dessus de l'eau. Et il y a les petits bateaux qu'on rencontre, les gondoles qui sont ou pleines de légumes ou pleines de ou des gens heureux, de gens heureux qui se promènent tout simplement, qui se laissent emporter par la lente poussée du gondolier qui lui-même se met d'accord avec les personnes qui sont assises dans sa gondole et qui se dit « Nous ne sommes pas pressés, nous avons toute la vie devant nous. »
Les bruits de Venise par Michel Butor.
On entend à Venise le bruit des pas. C'est une des seules villes actuelles où on entende si clairement le bruit des pas. Et on l'entend très nettement dans ces rues qui sont très étroites et dont le sol est en pierre ou en brique. Alors, on entend le bruit des pas et puis, vous savez, il y a ces places qui s'ouvrent tout d'un coup et où la sonorité va changer. Quand on parle avec quelqu'un, c'est très frappant, il y a des résonances très différentes. Et quand on est en Italie, on ne peut pas ne pas parler d'opéra. Et à Venise, il y a un opéra, un des plus beaux théâtres d'opéra, la Fenice. Et enfin, en ce qui concerne Venise, je ne peux pas manquer d'évoquer le cantique de Stravinsky, le cantique que Stravinsky a fait pour la basilique de Saint-Marc. Et ça, je ne peux pas manquer de l'évoquer parce que c'est une œuvre qui a eu une grande influence sur ma propre description de San Marco. Et c'est la raison pour laquelle ce livre « Description de San Marco » est dédié à Stravinsky pour son 80e anniversaire.
J'ai vu l'autre jour l'enterrement de Stravinsky.
Paul Morand.
De plus émouvant que cette cérémonie à San Zanipolo d'abord, qui est une nef prodigieuse où Notre-Dame tiendrait deux fois. Et puis ensuite, cette espèce de retour par la porte de l'Orient pour un ancien russe qui ne va pas jusqu'en Russie, mais qui s'arrête au bord, n'est-ce pas? Il faut bien voir ce que c'était que Venise. C'était également la charnière entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident.
Pour le poète américain Ezra Pound, Venise fut plus qu'une ville magique, plus que la beauté et l'art de vivre. Ce fut le dernier refuge. Il y avait publié ses premiers poèmes. Après l'exil et l'asile, il y reviendra. Y passera les 14 dernières années de sa vie. Terre d'élection pour y effectuer le dernier voyage.
But first El Penor came. Our friend El Penor unburied, cast on the wide earth. Limbs that we left in the house of Circe, unwept, unwrapped in sepulchre since toils urged other. Pitiful spirit, and I cried in hurried speech, Elpenor, how art thou come to this dark coast? Camest thou afoot outstripping seamen? And he in heavy speech, ill fate, and abundant wine, I slept in Circe's ingle. Going down the long ladder unguarded, I fell against the buttress, shattered the nape nerve, soul sought of Arnus. But thou, O king, I bid remember me unwept, unburied. Heap up mine arms, betombed by seaboard, and inscribed, a man of no fortune, and with a name to come, and set my oar up that I swung mid fellows.
Mm-hmm. Bon baiser de Venise était proposé par Christine Debussy et réalisé par Michel Dumontier, Maurice Billard et Edwige Rancière.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 août 1988.